Alors évidemment, ça vous aura pas échappé, je pense. C'était l'information de la semaine. Si j'arrive à la faire passer, en tout cas, ça passe pas. Alors si vous pouvez la faire passer, voilà. Il faut mettre en route la vidéo. Ça démarre pas. Je ne touche plus la zapette, je vous laisse faire.
Après 737 jours de captivité et 2 ans de guerre, les 20 derniers otages encore vivants retenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont retrouvé leur famille. Voilà. Après 700...
Il y a eu cette semaine de la joie, il y a eu des sourires. Il y a eu des rires, il y a eu des larmes aussi. Je revois les images de ce couple kidnappé et séparé le 7 octobre 2023. Ça avait été filmé par le Hamas. Et ces autres images qui viennent 2 ans plus tard, où on les voit tomber dans les bras l'un de l'autre après 2 ans de captivité. Donc de la joie, beaucoup de joie. Mais je pense aussi à ce jeune rescapé dont la compagne a été assassinée le 7 octobre devant lui et qui s'est suicidé il y a quelques semaines parce que la douleur était trop forte, le traumatisme impossible à dépasser. Et je me dis que derrière les sourires de ceux qui sont revenus, il y a aussi le traumatisme de la captivité, le traumatisme d'avoir cru mourir, celui d'avoir vu mourir. Ces hommes et ces femmes sont revenus chez eux. Mais celui ou celle qu'ils étaient avant le 7 octobre a disparu. Ils sont revenus autres, comme les rescapés du Bataclan, par exemple, sont devenus autres après l'attentat. C'est ça l'effet d'un traumatisme. Il nous change. Et parfois, il vient jusqu'à changer notre identité, en tout cas la manière dont nous nous percevons, parce qu'il vient couvrir d'un voile la lumière qui était la nôtre, il vient plomber notre légèreté. Il vient lester nos pas alertes, tout devient plus difficile. Et évidemment, ce chemin, il existe aussi pour les gens de foi. Mais on va aussi voir que malgré le froid qui s'installe dehors en cette mi-octobre, il y a toujours quelque part l'espérance du printemps à venir. On ira dans la suite du livre de Ruth, puisqu'on est dans une série sur ce livre. Et avant de vous mettre le texte à l'écran, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es un bon compagnon de route dans nos joies et aussi dans nos peines, dans les moments faciles de nos vies et dans les moments difficiles de nos vies. Merci pour ta fidélité. Et je veux te prier particulièrement ce matin pour ceux qui souffrent, pour qu'ils puissent vivre cette fidélité, la reconnaître dans leur propre existence, y compris dans les moments compliqués. Je te prie pour que le texte de ce matin les y aide, nous y aide chacun dans ce que nous pouvons vivre. Et pour ça, j'en appelle à ton Esprit Saint, parce qu'il y a la lettre, une lettre qu'on peut ne pas recevoir, qu'on peut lire comme un vieux livre d'histoire, ou une lettre qu'on peut accueillir avec l'aide de ton Saint-Esprit, parce que ton Saint-Esprit nous aide à la voir comme elle est, c'est-à-dire une parole vivante et qui nous transforme. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Alors, dans ce passage de Ruth, ce sont quelques versets. On voit donc Noémie et Ruth qui retournent à Bethléem. Et le texte nous dit « Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Les femmes disaient « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Noémie. Appelez-moi Mara, amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais partie comblée. Le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? Le Seigneur a témoigné contre moi. Le puissant m'a fait du mal. » Ainsi, Noémie revint, et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Alors la Noémie qui revient n'est pas la Noémie qui est partie 10 ans plus tôt. L'émotion gagne toute la ville, on a vu ça aussi dans les images qu'on a regardées tout à l'heure, mais les femmes qui connaissent Noémie la voient et se disent « Est-ce là Noémie ?» Parce qu'elle a changé Noémie. Bon, déjà elle a pris 10 ans, mais c'est là le moindre de ces changements. Alors évidemment, elle n'a pas été emmenée de force en Moab par quelqu'un qui en voulait à sa vie, elle n'a pas été retenue là-bas contre son gré. Son contexte n'est pas celui des otages revenus il y a quelques jours à peine. Et on peut être tenté, parfois, quand on voit des choses aussi fortes, aussi violentes, de comparer nos propres traumatismes à ceux de ces otages, par exemple. Et on pourrait se dire que les nôtres ne pèsent pas bien lourd, en fait, à côté de ce que ces gens ont vécu. Plus jeune, j'ai écrit un texte, un jour de grande frustration. Ce texte commençait comme ça, parce que c'était vrai, hein, je disais « j'ai cassé mes lunettes ». C'était un jour où j'avais cassé mes lunettes. Et je disais « je sais que des gens meurent de faim dans le monde, mais moi, j'ai cassé mes lunettes ». Et j'ai retrouvé un écho de cette idée, de l'idée que je voulais exprimer, en tout cas à travers ce petit texte, dans le livre « Consolation ». C'est un livre dont je vous ai déjà parlé, mais je ne vous avais pas dit que c'était ce livre, en fait. Je vous avais sorti des extraits dans une prédication précédente. C'est un livre d'Anne Dauphine Julien qui parle de consolation. Mais consolation pourquoi ? Parce que cette femme a perdu 3 de ses 4 enfants. Au moment où elle écrit ce livre, j'allais dire elle en a perdu que 2. C'est glauque de le dire comme ça. Mais elle avait perdu 2 de ses filles. Et elle dit ceci dans ce livre, elle dit « J'ai pris en grippe une phrase d'apparence anodine, mais profondément destructrice. Ça n'est rien à côté de ce que tu vis. Combien de fois l'ai-je entendu ? De cet ami quitté par l'amour de sa vie et qui estimait indécent de me partager sa douleur alors que la vie de Thaïs touchait à sa fin. Cet ami de toujours qui jusqu'alors me confiait en exclusivité ses peines et ses joies. Cet ami qui tout à coup n'osait plus et s'est tu. J'ai lu de la honte dans ses yeux baissés. Honte de ses sentiments qui lui paraissaient ridicules et méprisables au regard des miens. » Et finalement, elle explique que cette sollicitude bienveillante isole. Elle dit ceci, elle dit « On dresse une pyramide, parfait triangle au socle large, généreux et à la pointe étroite. Dans le sommet confiné, inatteignable, on range ceux que l'on estime souffrir le plus. » On les tient à distance de la base des éprouvés de droit commun, des petits tracas, des petits bobos, des petits malheurs, bien loin, pour se rassurer. Il est pourtant une souffrance pire que toutes les autres, qui les concerne toutes, même les plus banales, les plus courantes, les plus simples, les plus grandes, les plus effrayantes. Mère Teresa l'a décrit parfaitement, la plus grande souffrance, c'est d'être seule, de ne pas se sentir aimée, de n'avoir personne. Et André Malraux confirme avec des mots d'une clarté sans équivoque, la pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne. Alors Anne Dauphine dit et affirme que toutes les souffrances sont légitimes, toutes les douleurs sont authentiques, et leur hiérarchisation, dit-elle, serait désastreuse pour celui qui souffre. Les otages libérés ont souffert, et ils souffrent encore. Noémie, qui revient veuve et sans enfant du pays de Moab, souffre aussi. Et nous, eh bien nous souffrons aussi. Nous portons nos traumatismes, des traumatismes qui ont parfois modifié jusqu'à notre nom. « Ne m'appelez plus Noémie, » dit-elle. « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara. » Et vous, comment vous appelez-vous ? Alors moi, je m'appelle Laurent. Ça vient du latin. Ça veut dire couronné de laurier. La couronne de laurier, c'est un symbole de victoire. Les vainqueurs des jeux étaient couronnés de laurier. Les généraux triomphants aussi, quand ils revenaient à Rome, étaient couronnés de laurier. Pendant longtemps, c'est très, très empire romain tout ça, on m'a surnommé Titus. Voilà, encore un dossier que vous pourrez ressortir en temps voulu. On m'a surnommé Titus et j'ai appris que bien plus tard que Titus, c'est aussi le nom de l'empereur qui a détruit le temple de Jérusalem en 70. Bon, pour moi, c'était juste le nom associé à un petit renard rigolo qui servait de logo à l'éditeur d'un jeu vidéo dont j'étais le couronné de laurier, le vainqueur, le meilleur. Ça s'appelait Crazy Car. J'étais imbattable à ce jeu-là et on m'a donné, ou j'ai pris, je ne sais plus comment ça s'est passé, le nom du petit renard qui apparaissait au début du jeu. Alors, qu'est-ce que je dois faire de ces noms ? Titus, ça a été abandonné petit à petit, sans le vouloir vraiment, je n'ai pas cherché, mais ça s'est fait comme ça. Quant à Laurent, je l'investis de ce qu'il a de positif. La Bible parle aussi d'une couronne, après tout, hein, la couronne de vie qui récompense la fidélité et l'endurance dans l'épreuve. Alors, je veux bien être couronné de laurier s'il s'agit de cette couronne-là. Tout ça pour dire que le nom, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Les Juifs ne choisissaient pas des noms au hasard pour leurs enfants. Ils ne choisissaient pas des noms parce qu'ils les trouvaient beaux ou originaux. Ils les choisissaient pour le sens qu'il porte, qu'il a. Parce qu'ils avaient bien compris que nommer, c'est un acte spirituel. C'est d'ailleurs ce que Dieu demande à l'être humain dans le jardin d'Éden, de nommer ce qui est autour de lui. Nommer quelqu'un, c'est le marquer spirituellement. Cette personne va entendre son nom toute sa vie comme une parole prononcée sur elle et à laquelle elle va répondre. Elle va répondre à cette parole toute sa vie. Tu m'appelles et parce que je reconnais mon nom, je me retourne. Alors juste pour voir, par curiosité, j'avoue, j'ai cherché la traduction des prénoms des otages qui ont été libérés dernièrement. Et c'est intéressant. Il s'appelle « Don de Dieu »,« Bien-aimé », »,« Mon Père a donné », »,« Élévation », »,« Ma joie », »,« Splendeur », »,« Dieu a acquis », »,« Lion de Dieu », »,« Le plus grand », »,« Inébranlable », Mon Père est abondant, force. C'est pas mal. En Espagne, vous avez des parents qui appellent leurs enfants Dolores, douleur. C'est un drôle de sac à dos pour démarrer dans la vie. Dans les années 30 ou 40, vous aviez même des angustias, angoisse. Et entre parenthèses, petit taquet au passage comme ça, gentil, hein, mais ça vient de la tradition mariale. Santa Maria de los Dolores, Santa Maria de las Angustias. On garde la fin et pour honorer Marie, ou on pense qu'on l'honore en tout cas, on donne à nos enfants le nom de douleur et d'angoisse. Qu'est-ce qui vous aide le plus quand vous êtes dans les galeries souterraines du Hamas ? Qu'on vous appelle lion de Dieu ou qu'on vous appelle douleur, angoisse ? Alors le nom, c'est important. Paul, par exemple, s'est appelé Saul. Avant d'être Paul, il s'appelait Saul. Et c'est une référence au premier roi d'Israël. C'était un roi fort, dominant, au tempérament vif, violent même, très terrien. Mais plus tard, Saul a choisi de se faire appeler Paul de son nom romain, probablement parce qu'il devenait l'apôtre des nations, d'une part, et donc c'était peut-être mieux pour lui d'avoir un nom romain. Mais peut-être aussi parce que Paul, en latin, ça veut dire « petit ». Et Paul se considérait comme le plus petit de tous les apôtres. Il avait été un Saul, un violent, un persécuteur de l'Église, mais c'était fini. Maintenant, il était le plus petit des apôtres. Évidemment, on peut penser à Simon, l'apôtre, à qui Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Là, Jésus change carrément son nom, et ce faisant, il change aussi quelque chose de son identité. Le nom, ce n'est pas anodin, je l'ai dit, c'est un marquage spirituel. Il peut nous aider, mais il peut aussi nous desservir. Noémie a reçu un joli prénom. Il vient d'une racine hébraïque qui veut dire douce, agréable, plaisante, aimable. Mais Noémie est traumatisée par son vécu. Alors elle dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, amère. Il y a des personnes dont les traumatismes se lisent sur les visages, et parfois même littéralement. J'ai une amie qui, plus jeune, s'était rasé les cheveux très courts, coupe militaire, et elle se les était teints en violet, parce qu'elle voulait que son traumatisme se voie. C'est elle qui me l'avait expliqué, je n'invente pas. C'est comme si elle disait « Ne m'appelez plus Jessica, c'était son prénom, appelez-moi Violet ». Noémie et mon amie Jessica ont redéfini leur identité à partir de leur douleur au lieu de le faire à partir de leur vocation. Mais ton traumatisme ne te définit pas. Noémie s'appelle Noémie, quand bien même l'amertume est venue dans son cœur, et Jessica s'appelle Jessica, c'est-à-dire celle qui voit, quand bien même elle ne voit plus que son traumatisme. Quel est le nom que Dieu t'a donné ? Je ne parle même pas là du nom que tes parents t'ont donné, s'il est bénissant, super, il est parfait, tu peux t'en saisir, mais je parle en tout cas du nom que Dieu t'a donné, parce que ce nom-là, c'est ton nom. Ce nom-là, il n'est pas maudissant. Et Dieu, lui, t'appelle par ton nom. Et pourtant, Noémie n'est pas loin de penser que c'est Dieu qui l'appelle amère. Le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais partie comblée, dit-elle. Le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? Le Seigneur a témoigné contre moi. Le puissant m'a fait du mal. Et franchement, Noémie, je crois, n'a pas les idées très claires. Et ça aussi, je crois que c'est une constante quand on souffre. On a un peu de mal à avoir les idées claires. D'abord, elle exagère un peu. D'une part, si elle était comblée à Bethléem, elle ne serait pas partie. Ils ont quitté Bethléem parce qu'il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Et d'autre part, elle ne revient pas tout à fait les mains vides non plus. C'est vrai qu'elle a perdu son mari et ses enfants et c'est épouvantable. Il ne s'agit pas de minimiser ça ou de diminuer ça. Mais elle revient avec Ruth. Ruth qui est bien décidée à ne pas l'abandonner. Et s'il est vrai que la pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne, alors Noémie a l'opportunité, en contemplant la présence de Ruth à ses côtés, de ne pas sombrer dans la pire des souffrances. Il y a là pour Noémie un signe tangible de la grâce de Dieu à ses côtés. Mais pour l'instant, elle ne voit pas Ruth. Elle ne parle même pas de Ruth. Ruth qui a souffert aussi et qui s'est déracinée pour la suivre. Lorsque le malheur arrive, on tend quand même un peu à idéaliser ce qu'on a perdu. Et on a bien du mal à apprécier ce qu'on a encore effectivement dans les mains. Il y a là, je crois, un grand travail de rééquilibrage à faire, mais évidemment, c'est encore un peu tôt pour Noémie. Elle est toute à sa douleur, il n'y a guère de place pour autre chose dans l'immédiat. Dans l'immédiat, elle blâme Dieu. Et on a le droit de le faire. Je l'ai déjà cité plusieurs fois parce que je le trouve très éloquent, mais le psaume 44, c'est un psaume exemplaire en la matière. On y voit le psalmiste blâmer Dieu dans les termes les plus durs. Il dit « C'est toi qui nous tues, c'est toi qui nous mènes à l'abattoir et on n'a rien fait, on ne s'est pas détourné de toi. Si on s'était détourné de toi, tu le saurais et pourtant tu nous tues. » Noémie ne peut pas tout à fait en dire autant toutefois. Peut-être a-t-elle oublié leur décision de partir en territoire ennemi, de s'y installer, d'y marier les enfants. Mais ça n'est pas possible, de prendre du recul quand on a le nez dans la souffrance, quand on est en mode survie. Et surtout, la question n'est pas tant de trouver finalement qui est coupable de la situation que de trouver la manière d'en sortir. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution qui pointe à l'horizon. Il y a des femmes curieuses qui viennent voir cette drôle de revenante partie 10 ans plus tôt, mais on ne voit là aucune main tendue. Il n'y a rien à ce stade qui permette de penser que Noémie va recevoir l'aide qu'elle devrait recevoir si les Israélites sont conséquents avec la loi de Dieu. Mais rien n'est moins sûr, en fait, parce que, rappelez-vous de ce refrain, en ce temps-là, il n'y avait pas droit en Israël, chacun faisait ce qui lui convenait. La loi de Dieu, elle était un petit peu oubliée. Mais une fois encore, on peut voir la trace du Seigneur dans la neige fraîche de la vie de Noémie. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Noémie et Ruth n'ont aucune ressource, mais on est à la fin du mois d'avril. L'hiver est derrière, le printemps s'est installé et les premiers épis sont sortis. Ce sont des épis d'orge. Et Dieu, qui ne manque jamais une occasion de faire la fête à son peuple, a institué pour célébrer l'arrivée de ses premiers épis la fête des prémices. Alors la Bible n'en parle qu'à un seul endroit, en Lévitique 23. C'est une fête qui intervenait au lendemain du Shabbat de Pessah, c'est-à-dire, pour le dire en français, le lendemain du samedi qui suivait la fête de Pâques. Autrement dit, pour nous chrétiens, le dimanche de la résurrection du Christ. Et c'est à partir de cette fête qu'on comptait 50 jours pour atteindre une autre fête que vous connaissez, la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, non pas de l'orge, mais du blé cette fois-ci, et c'est elle qui vient clôturer la saison des récoltes qui a donc été inaugurée par la fête des prémices. Alors, petite parenthèse historique qui n'est pas sans rapport avec l'actualité. À l'origine, la fête des prémices, c'était un temps de réjouissance, parce que c'était le début de la récolte. Donc c'est le moment où on va recueillir le fruit de notre labeur. Donc c'est un moment de fête, évidemment. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un temps de fête en Israël. C'est un temps de deuil. C'est un temps de deuil. Pour deux raisons. La première, elle tient à un événement rapporté dans le Talmud, selon lequel 24 000 étudiants de l'un des plus grands érudits talmudiques auraient trouvé la mort dans une épidémie. Et la deuxième, c'est que c'est également à cette période qu'aurait eu lieu vers l'an 132 la révolte juive qui a été écrasée par les armées romaines de l'empereur Adrien. Et après cette révolte, Adrien a banni les juifs de Jérusalem, il a interdit l'enseignement de la Torah, il a renommé la ville de Jérusalem et il a également renommé le pays pour rayer de la carte le souvenir même du peuple juif. Et je vous le donne en mille. Il a donné au territoire d'Israël le nom de Palestina, la Palestine, qui vient des Philistins, peuple ennemi d'Israël. C'est étonnant, les retournements de l'histoire. Mais pour l'heure, Adrien est encore loin, et pour Noémie et Ruth, qui manquent de tout, ses premiers épis signifient qu'il va y avoir du travail dans les champs. Le terrain est prêt, il est prêt pour la moisson. Il est prêt pour la suite de l'histoire qui interviendra donc la prochaine fois. Pour l'heure, Noémie pense que sa souffrance a changé son nom. Elle était aimable, douce et gracieuse, et elle est devenue amère. Mais Dieu agit en creux. Elle ne le sait pas, mais les éléments sont déjà en place pour que sa situation change. Pendant qu'elle, elle compte ses pertes, Dieu fait germer sa grâce. De toute petite graine, semblable à la graine de moutarde de la parabole de Jésus qui devient un arbre capable d'héberger les oiseaux du ciel, de toute petite graine, mais qui sont déjà prêtes à prendre racine. Alors, même si la route est longue, ne confonds pas le chemin avec la destination. Ne confonds pas l'hiver et la moisson. Peut-être pourrais-tu, c'est une suggestion, une fois le culte terminé, écrire sur un papier le nom que la douleur t'a donné. Amer, fatigué, inquiet. Et puis ce nom, tu le barres, et à la place, tu écris le nom que Dieu t'a donné. Créature merveilleuse, esprit courageux, enfant bien-aimé, don de Dieu. Et puis ensuite, dans la semaine, tu t'entraînes à repérer les épis, les signes de la moisson qui s'annonce. Une présence, une parole encourageante, une porte qui s'ouvre. Ésaïe 43:19 nous encourage en nous disant « Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Je vais prier. Seigneur, il y a vraiment des moments dans notre existence où nous nous sentons perdus, seuls, même abandonnés de toi. Des moments où nous avons les yeux complètement bouchés par notre douleur, par notre souffrance. Et nous n'arrivons plus à voir même les signes tangibles de ta présence, quand bien même ces signes peuvent être discrets, Seigneur. Je voudrais te prier pour celles et ceux qui peut-être sont dans cette situation ce matin, celles et ceux qui qui sont là parce qu'ils attendent une parole de toi qu'ils n'arrivent pas à trouver dans leur quotidien le reste de la semaine. Parce qu'ils attendent ta présence manifeste, quelque chose. Ils veulent te voir et ils ne te voient pas. Seigneur, je te prie de parler à leur cœur ce matin. C'est à eux que tu t'adresses. C'est pour eux que tu m'as fait prêcher ce matin. Je te prie pour qu'ils ne t'entendent pas seulement ce matin pendant la prédication, mais qu'ils puissent effectivement barrer dans leur vie le nom de cette douleur qui existe mais qui ne les définit pas, et qu'ils puissent à la place mettre le nom par lequel toi tu les appelles. Je te prie de faire monter dans leur cœur, pendant un temps qu'ils passeront avec toi, ce nom que toi tu leur donnes, ce nom qui parle de leur destinée, de leur futur, de ce que tu as prévu pour eux, et qui permet de passer à travers la douleur, d'être porté par ce qui vient après. Je te prie aussi pour qu'ils puissent voir les prémices de la moisson. Quand on est en plein dans l'épreuve, c'est difficile. Quand on est en plein dans l'hiver, on a du mal à voir les petites pousses. Parfois, elles ne dépassent même pas. Elles sont ensevelies. Seigneur, je te prie pour qu'ils puissent les voir. Elles sont parfois très sensibles, intangibles. On a du mal parce qu'elles sont toutes petites, mais elles existent, elles sont là. Je te prie pour qu'ils puissent les voir, que ça puisse être un sujet d'encouragement qui leur permettent de persévérer dans l'épreuve qu'ils traversent avec cette assurance que derrière, le printemps arrive. Parce que c'est ce qui se passe toujours. Parce que tu n'es pas resté, tu n'as pas laissé ton fils entre les morts, mais tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il est le premier à être sorti d'entre les morts, Seigneur, le premier d'une longue série dont nous sommes parce que nous avons placé notre foi en toi. Seigneur, que nous puissions être portés par cette espérance de la résurrection. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.